On s'en va. Yaki, chérie, s'il te plaît, on n'a plus de temps à perdre. Pierre Janssen est un jeune Belge originaire de la ville de Courtrai. Il est depuis plusieurs années déjà habitué à vivre bien loin du royaume. En 1992, il a épousé Yaki, l'une des filles d'un homme parmi les plus puissants du monde, Mobutu. Kinshasa est devenue sa deuxième maison. Mais ce matin, tout s'achève avec fracas. La gloire, les dorures, les privilèges ne seront bientôt plus qu'un lointain souvenir. Les enfants pleurent, ils ne veulent pas partir. Au fond de la pièce, telle une ombre, se dresse celui qui leur semblait être le maître du monde. Derrière ses épaisses montures, amaigries par la maladie qui le ronge, Mobutu est figé. Il fixe une ultime fois les atours acquis au fil des décennies, sur le dos du Zaïre, sur celui de ses habitants, qui se révoltent depuis un moment. Le chef de l'Alliance de Forces démocratiques pour la libération du Congo, Laurent Désiré Kabila, est tout près de la capitale. Et il n'a qu'une obsession, attraper le tyran dans ses filets. Nous sommes le 16 mai 1997. Il est un peu plus de 6 heures du matin. Et c'est leur hache de mon histoire. Sen est à peine habillé. C'est tout juste s'il a eu le temps de sauter de son lit. Non loin du palais présidentiel, qui s'élève vers le ciel comme le soleil, les vivas et les cris se font déjà entendre. La foule en colère peine à être contenue par les derniers soldats fidèles au père de la nation. Tout est terminé, et le chef le sait. C'est un départ sans retour. Son chauffeur personnel, paniqué, lui demande la destination. Direction l'aéroport. Un avion l'attend. Lui et sa famille vont y embarquer. Les derniers fidèles n'ont qu'un objectif, fuir. Leur espoir, traverser le fleuve avant d'être pris par Kabila. Dans les griffes des rebelles, c'est la mort qui les attend, rien d'autre. Pierre Janssen embarque dans une voiture qui démarre en trombe à côté de la limousine présidentielle. Dans les rues de Kinshasa, encadrées par des camions blindés de l'armée, le convoi file à vive allure. Il pourrait être intercepté d'un moment à l'autre. Le trajet, Mobutu l'a prévu très tôt. Personne d'autre ne le connaît, pas même les chauffeurs des véhicules, qui manquent de se perdre. Sur le bord de la route, les habitants, tantôt incrédules, tantôt en colère, jettent à la figure de leur président des anathèmes et des cris stridents. L'image est saisissante. L'ancien maître prend ses jambes à son cou. Il tente d'échapper à la fureur de son destin. Partout, la foule va scander des slogans dénigrant leur ancien dirigeant et acclamant Kabila. Un envoyé spécial de la RTBF est sur place, auprès des habitants de Kinshasa.
Certains dans la rue n'hésitent pas à acclamer leur joie.
Kabila, président ! Kabila, président ! Kabila, président ! Kabila, président !
C'est depuis toujours que nous avons demandé à ce que M. Mobutu parte, c'est parce qu'on en a marre de lui, hein. On en a marre vraiment, donc c'est difficile. Alors là, on est vraiment très très joyeux, hein.
Mais la majorité de la population a toujours peur. La grève des services d'immigration qui paralyse entre autres le trafic des ferries entre Kinshasa et le Congo-Brazzaville ne fait que renforcer le sentiment d'isolement et d'abandon d'une population qui se sent de plus en plus l'otage de la partie de bras de fer qui oppose le président Mobutu à Laurent Désiré Kabila.
Les ennemis du régime vont entrer dans la ville moins de 24 heures plus tard. Cagoulés, les troupes armées commandées par Kabila triomphent. Ils sont portés aux nues. Eux, les protégés du Rwanda, où le génocide a commencé il y a quelques semaines, et de l'Ouganda. Déjà, les pays voisins réfléchissent à la suite. Ils voudront se tailler la part du lion, sur le dos du trésor de l'Afrique. Mobutu et sa suite ont manqué de se faire prendre. L'ancien leader se dissipe comme un mirage. Lui qui pensait être immortel, le voilà fugitif. Il prend la direction du Togo, qui ne va pas tarder à le mettre à la porte. L'homme est un paria. Abandonné des siens, il a pourtant régné en maître sur un pays à nul autre pareil. Le Congo devenu Zaïre. La terre des richesses multiples. Celle qui a appris à vivre dans les griffes d'un redoutable fauve durant 3 décennies. Car voilà notre paradoxe du jour. L'homme qui s'échappe, tel l'animal traqué, fut longtemps le chasseur le plus redoutable de son époque. L'histoire se charge de lui rappeler sans ménagement qu'elle est la seule à pouvoir décider du destin des hommes. quittons un instant les ruines d'un régime en miettes pour assister, spectateurs de la grande histoire, à sa genèse. Nous sommes bien des années plus tôt, le 19 novembre 1965, à Léopoldville. La capitale n'est pas encore devenue Kinshasa, mais déjà un nom résonne entre toutes les lèvres, celui de Mobutu. Derrière ses grosses lunettes noires, le chef d'état-major de l'armée, 35 ans, s'avance au milieu des troupes. Paré de tous les atours de sa gloire, il est au firmament d'une puissance glanée par le sang. Sa légende est née au cœur d'une guerre civile qui vient de tenser l'unité même du Congo. Dans un grand uniforme un peu trop grand pour lui, l'officier est accompagné du président du pays, Kazavubu. Le petit homme, ancien leader politique indépendantiste, donne le change. Derrière les apparences, tout le monde sait que celui qui tire les ficelles déjà s'appelle Joseph Mobutu. Le premier président du pays, engoncé dans une grande tenue immaculée, se contente de faire ce qu'on lui a demandé. Après tout, l'armée a déjà commis des purges politiques particulièrement sanglantes. L'homme qui se tient derrière lui n'y est d'ailleurs pas étranger. La cérémonie bat son plein. Dans un air grandiloquent, des musiciens annoncent sa prise de parole. Celui qui a hérité en 1960 du pouvoir de manière démocratique se demande certainement comment il en est arrivé là. Là, Kazavubu cesse de réfléchir. Il n'a plus rien à faire de toute façon. Il ne lui reste qu'à lire un discours qu'il n'a même pas écrit lui-même. À l'appel, le chef de l'armée s'avance face à son destin tout tracé. Le président déclame alors une longue liste de grades et de privilèges. Tous reviennent à celui qui cherche à juguler la guerre civile.
Par ordonnance numéro 400 du 3 novembre 1965, prise par nous, le commandant en chef de l'armée nationale congolaise, le général-major Mobutu, Joseph Désiré, ici présent, est nommé lieutenant-général de l'armée nationale congolaise à la date du 1er janvier 1965.
Au cœur de cet instant symbolique fastueux et somptueux, la légende de Mobutu, une nouvelle fois, gagne en intensité. Petit à petit, Mobutu a su gravir les marches vers le sommet. Pour cela, il n'a pas hésité à trahir, à mentir, à manipuler. Force est de constater que 5 ans après l'indépendance du Congo, il est en passe de réussir son coup. Il guette l'opportunité de se saisir du pouvoir. Ce moment de gloire doit être l'occasion de le légitimer dans cette entreprise aux yeux de tous ses soldats et plus encore face au peuple. La couronne, il compte l'arracher de force s'il le faut. Un coup d'état, même pas peur. Mobutu est un spécialiste en la matière. Rien ne prédisposait Joseph Mobutu à devenir le tyran qu'il a été pendant des décennies. Son histoire personnelle débute à Lisala, en 1930. Cette ville d'importance est le chef-lieu de la province de la Mongala. Mobutu grandit au cœur des forêts du Congo belge. Il est issu d'une famille plutôt modeste et vit une enfance normale, enfin presque. Son comportement rebelle lui vaut d'être incorporé contre son gré dans les rangs de l'armée coloniale à la fin de son adolescence. Il y reste durant 7 longues années avant de s'orienter vers une carrière de journaliste. Il travaille pour le journal L'Avenir au Congo et profite de son statut d'homme de lettres pour se rendre à Bruxelles en pleine Expo 58. En tant qu'autochtone de l'élite congolaise, il est longuement interrogé. Ainsi, on peut par exemple trouver la trace d'une interview durant laquelle le jeune Mobutu parle de son pays et de ses concitoyens. À l'époque, là non plus, rien ne peut permettre d'anticiper ce qui vient. L'année suivante, alors qu'il s'est déjà rapproché d'un certain Patrice Lumumba, Mobutu prend le risque de parler ouvertement dans ses papiers des grandes émeutes de janvier 1959. Elles ouvrent la voie vers l'indépendance de son pays. C'est tout naturellement, si l'on peut dire, qu'il devient peu de temps après le secrétaire particulier de Lumumba. Bien qu'il garde sa place dans l'ombre lors des négociations pour l'indépendance du Congo menées à Bruxelles, Mobutu fait forte impression. Certains déjà l'imaginent en haut de l'échelle. Oh, ils vont pas être déçus. Dans le processus d'émancipation, l'ancien journaliste prend une épaisseur énorme. Les élections organisées à la suite des tables rondes permettent à Lumumba, le mentor de Mobutu, d'accéder à la fonction de Premier ministre. Son jeune disciple, lui, hérite d'un portefeuille de secrétaire d'État. Ça ne s'arrête pas là. Son passé de militaire lui offre une opportunité unique, celle de devenir commandant en chef de la force publique, qui devient l'armée nationale congolaise. Dès lors, il est l'un des hommes qui compte au sommet. Le 30 juin 1960, le Congo devient officiellement indépendant. Mais ces nouvelles institutions instables cèdent au chaos presque immédiatement. Au cœur du réacteur, le Premier ministre, qui doit gérer la scission des régions minières du pays. Économiquement, perdre cette emprise serait une véritable catastrophe. L'homme politique doit compter sur ses plus proches soutiens pour se sortir de la nasse. Mobutu, lui, doit gérer une mutinerie au sein de l'armée. Reprendre en main la situation devient bientôt totalement impossible et l'élève d'un revers de la main décide de trahir son ancien maître. Cette trahison inique, le 14 septembre 1960, s'accompagne d'un premier coup d'État. Dans une prise de parole, le chef d'état-major s'exclame « L'armée nationale a décidé de neutraliser le chef de l'État jusqu'à la date du 31 décembre 1960 ». Il ne s'agit pas d'un coup d'état militaire, mais plutôt d'une simple révolution pacifique. L'armée va aider le pays à résoudre tous ces différents problèmes qui deviennent de plus en plus aigus. Mon œil, ouais. S'ensuit alors toute l'affaire autour de la disparition de Patrice Lumumba, sur laquelle nous n'allons pas revenir ici. Sa mort ne règle en rien le chaos qui s'est installé dans l'ancienne colonie du Royaume de Belgique. Bien au contraire, même. Des provinces se révoltent. Les Simba s'arment, s'érigent au rang de rebelles. Bientôt, leur avancée inexorable étouffe totalement le gouvernement central. Au plus fort de leur puissance, ils soumettent plus de la moitié du pays. Mobutu, lui, s'impose aux côtés du premier président du pays, au pouvoir jugulé et inexistant. Déjà, il est le chef, l'homme qui parle aux caméras et qui prend les décisions. Il ne va pas tarder à imposer sa mainmise. Face au Simba, Mobutu devient chef de guerre. Il peut compter sur des alliés de poids. Les puissances occidentales n'ont pas oublié qu'il leur est fidèle. Au premier rang d'entre elles, ironie de l'histoire peut-être, se trouve l'ancien colon belge. Il n'empêche. La guerre civile est une énorme difficulté pour Mobutu et le pouvoir central. Elle va durer des années. Pourtant, loin d'être uniquement un drame pour son ascension, le chef d'état-major va se servir du conflit pour se tailler une image de pacificateur. Bien loin de la réalité des crimes commis, Mobutu est considéré comme un homme capable de préserver l'unité du Congo, tout en limitant les effluves de sang. Pourtant, sur le terrain, la situation reste un peu plus explosive. Soutenu par les plus grandes puissances du monde, en particulier les États-Unis, qui cherchent à contrecarrer l'influence soviétique dans une partie du continent africain, l'ancien journaliste devient intouchable. En 1965, alors que le président Kassavubu le nomme aux plus hautes distinctions et fonctions, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Il ne lui reste qu'une petite marche à franchir avant d'atteindre l'objectif ultime qui l'anime : prendre le pouvoir et devenir au cœur d'un système aussi sanglant que coercitif. Un véritable dieu. Le 25 novembre 1965, Léopoldville. Il y a quelques jours, Mobutu a connu les fastes d'une cérémonie militaire qui l'a propulsé au rang d'icône. Et aujourd'hui, alors que les médailles nouvellement placées sur son uniforme brillent encore, il s'apprête à frapper un grand coup. Le héros de la nation. Plébiscité par tous, fait les gros titres de la presse. Hier, il a mené un coup d'État gigantesque. Sont tombés dans ses filets le Premier ministre en place, et plus encore, l'homme qui vient de tout lui donner, le président Kasavubu. Exit, ce régime né de la précipitation et des négociations avec l'ancien colon, du moins en apparence. Le général Mobutu, appuyé par la CIA, lance ses troupes dans les palais et les habitations des plus hauts dignitaires politiques, tous ou presque, sont mis sous les verrous. Comment justifier une telle décision? Comme d'habitude, l'ancien journaliste a réponse à tout.
Jusqu'ici, nous avons constaté, je dis nous, pas moi, c'est-à-dire l'ensemble des chefs militaires, qu'il manquait de discipline chez nos hommes politiques. Alors pendant 5 ans, nous allons imposer la discipline dans tous les domaines, politique, économique, financier. J'ai toute mon armée avec moi. Tout est maintenant entre les mains, n'est-ce pas, du général Mobutu et de l'armée nationale.
En parlant de lui à la troisième personne, le nouvel homme fort annonce la couleur. Des têtes vont tomber. Comme souvent avec lui, ça va se passer sous couvert de manipulation et dans le sang. Avec la scission du Katanga et son chef, Tshombe, le pouvoir central incarné par le président Kasavubu était considérablement décrié, tant dans la population que dans une partie du concert des nations. Ainsi, la prise de pouvoir autoritaire de Joseph Mobutu est accueillie avec joie chez bien des Congolais, persuadés de pouvoir vivre heureux dans une stabilité retrouvée. À l'extérieur, les marques de reconnaissance ne tardent pas à affluer. Les États-Unis, la Belgique, Israël, la Chine, les Soviétiques et bien d'autres considèrent le chef militaire comme le nouveau président légitime du régime. Et là, pour lui, c'est bingo. Le leader a promis un retour à la discipline. Ça ne va pas manquer. Quelques mois seulement après son arrivée au pouvoir, il dénonce une volonté de certains hommes politiques de lui nuire. Parle de complot. En réaction, il fait juger 4 des anciens dirigeants de la République congolaise, dont l'ancien Premier ministre qu'il a renversé il y a peu. Ces hommes vont être pendus en place publique le 2 juin 1966. L'ancien président Kasavubu a plus de chance. Il est placé en résidence surveillée. Ouais, disons-le sans embâge, de complot il n'y a jamais eu, mais très vite. Il est clair que l'autoritarisme devient l'une des composantes du nouveau régime. L'exécution publique émeut en Europe. Quand on lui souligne le caractère terrible de cette manœuvre, Mobutu annonce clairement que la démocratie, je le cite, n'est pas une notion applicable à la lettre en Afrique. Comble de l'ironie et de l'horreur, il décide d'élever Lumumba au rang de héros national, tout en se débarrassant petit à petit de ses rivaux politiques à la fin des années 60. Ce durcissement de la politique intérieure se conjugue avec une ouverture vers ses partenaires et alliés mondiaux. Ainsi, Mobutu va se rendre aux États-Unis à la rencontre de Nixon, puis en Angleterre, où il est reçu par Elizabeth II. Cette tournée diplomatique va le conduire dans bien des puissances mondiales, notamment la Chine de Mao. Chaque fois, le président congolais tente de placer son pays sur la carte des lieux qui comptent, et pour cause. Le Congo est un trésor économique, en surface et en sous-sol. Il est aussi un rempart contre les Soviétiques en Afrique. Son mandat, qui devait durer 5 ans, s'étiole sans que personne n'y trouve rien à redire. Finalement, ce sera un septennat. Bientôt, c'est clair, le chef en place ne compte pas partir. En 1970, le roi Baudouin en personne se rend à Léopoldville. Mobutu le reçoit comme son égal. Une décennie après leur première rencontre, lors des négociations pour l'indépendance, le nouveau leader cherche à faire éclater aux yeux de l'ancien colon sa toute-puissance. Juste avant ce voyage officiel, les intellectuels du Congo, notamment les universitaires de la capitale, se soulèvent contre le chef qui interdit toute voix dissidente. L'armée tire à balles réelles sur les étudiants. Le bilan inconnu est, semble-t-il, terrible. L'université va fermer ses portes et les jeunes iront se battre dans l'armée. Pas de place pour la liberté d'expression, pas de place non plus pour une société composée d'intellectuels à la parole libre. L'omnipotence de Mobutu passe aussi par la création d'un nouveau parti unique, le Mouvement populaire de la Révolution, dont la doctrine rappelle les pires régimes autoritaires. Pas de contre-pouvoir, pas d'opposition. Mobutu renforce sa mainmise sur tous les organes décisionnels. Mais pour qu'il devienne véritablement l'incarnation divine de son pouvoir, les choses doivent aller plus loin. Alors il décide de tout changer. Le Congo perd son nom, sa monnaie, son identité. Dorénavant, il faut parler du Zaïre pour tout, du territoire aux pièces et aux billets. Il est interdit pour les habitants de porter des prénoms européens, de tradition chrétienne. Chez lui, Joseph disparaît, il devient Mobutu Sese Seko. Chaque Zaïrois est prié de faire de même. L'objectif, rejeter l'influence extérieure, mettre en place son idéologie propre. La grandiloquence des cérémonies, où chants et danses s'enchaînent à la gloire du chef, rappelle aussi les pires dérives de l'histoire. Mobutu concentre gloire et popularité. Il est le symbole divin du redressement. Grisé par son pouvoir, le leader aime à se donner en spectacle devant des foules immenses, dévolu à sa puissance. Sa doctrine politique, le mobutisme, fait la pluie et le beau temps dans tout le pays.